France Musique.
Hi, I'm Joe Lovano, and we're on Open Jazz, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième épisode de notre série de 10 consacrée à Joe Lovano, notre Viva Lovano. Pour ce deuxième épisode qui s'intitule Berkeley New York Express, va s'intéresser au début de carrière de Joe Lovano. Qu'est-ce qui l'a poussé d'ailleurs à aller s'inscrire à la Berklee School of Music ? C'est le papa, c'est les copains, c'est son envie personnelle ? Réponse de Joe Lovano.
That was my... I wanted to go there. I had some
Je voulais aller là-bas. J'avais des amis qui étaient allés à la Berklee.
I had a book about Berklee.
J'avais un livre sur la Berklee School of Music à Boston. Il y avait Charlie Mariano sur la couverture. C'était un des saxophonistes que j'adorais. Et je voulais étudier avec lui. Il y avait John Laporta aussi. C'était l'un des professeurs. C'était un peu les pères fondateurs de la Berklee School dans les années 50.
Joe Viola aussi. It's funny, the three Italians.
Il y avait aussi Joe Viola, c'est marrant, ils ont trois origines italiennes.
Saxophone teacher and, incredible,
c'était aussi un maître pour enseigner le saxophone, John Viola.
Didn't really play jazz, but
il ne jouait pas vraiment du jazz,
very influential for everybody,
mais en tout cas, il a influencé tous les gens qui sont passés par Berklee qui jouaient du sax.
That made me want to go.
En tout cas, c'est ça qui m'a donné envie d'y aller. Et j'avais des amis... qui pensait à y aller, et du coup, on a eu envie d'y aller tous ensemble.
Also my friend Carmen Castaldi.
Il y avait aussi mon ami Carmen Castaldi, qui est présent sur mon trio Tapestry sur ECM. C'est un magnifique batteur et un très beau musicien. Il a beaucoup de profondeur comme musicien. On est allés ensemble à Berklee. Carmen, Ron Smith et moi, on a pris un appartement. Et en 71, on s'est installé à Berklee, à Boston. Du coup, ma relation avec Carmen, elle remonte à l'époque où on était adolescent. Et on jouait très souvent ensemble à cette époque-là. Du coup, il y a beaucoup de confiance réciproque quand on joue ensemble. Je suis très heureux qu'aujourd'hui il joue avec moi, Carmen
Castaldi.
Et on a eu la chance d'enregistrer pour Manfred Eicher, pour ECM, l'année du 50e anniversaire du label. C'est quand même formidable. Thank you. Sole Mio, version Joe Loveno en 2001. Il avait à ses côtés son copain d'enfance qu'il avait suivi à Berkeley, Carmen Castaldi, à la batterie. Et il y avait deux batteurs, Ed Schuller et Scott Lee, et Joe Loveno, pour cette version de O Sole Mio. On l'a laissé à la Berkeley School of Music en 1971. Et quand il en est sorti, qu'est-ce qui s'est passé?
Well, some of my first gigs touring and traveling around the country.
Quelques-uns de mes premiers enregistrements en tournée dans le pays, ça s'est passé avec des musiciens comme le docteur Lonnie Smith. C'était en 73-74. Il vivait à Detroit à cette époque-là. Il avait entendu parler de moi. Il avait joué au Smiling Dog à Cleveland. Et il voulait monter un orchestre avec des saxophonistes. Et alors il demandait vous connaissez des saxophonistes intéressants et tout. Et c'est comme ça qu'il avait entendu parler de moi. Quelqu'un lui a donné mon numéro. J'étais à Boston à ce moment-là. Je me souviens avoir reçu un coup de fil de ma mère qui me disait il y a un certain Lonnie Smith qui te cherche, voilà son numéro. On lui avait donné le numéro de mes parents et je l'ai rappelé. Moi, je savais qui c'était et je connaissais sa musique. Il avait enregistré déjà pour Blue Note. Et puis, il jouait dans la formation de George Benson avec Ronnie Kubert au baryton. Il jouait aussi dans le fameux Alligator Boogaloo de Lou Donaldson avec Idriss Muhammad, avec qui j'ai aussi commencé à jouer. Bon, bref. Lonnie m'a demandé de le rejoindre à Detroit. On a répété et on a démarré un quartet. C'était le début d'une collaboration. On a fait le fameux Chitlin Circuit à travers les États-Unis, c'est aller de petites villes dans les différents États, dans des lieux improbables.
Came to New York,
et quand on est arrivé à New York,
that was kind of the first times I really
on a joué à New York. C'est la première fois que j'y jouais vraiment, avec un vrai engagement. Et je me souviens que la première fois, on a joué avec Billy Hart à la batterie, en trio, avec Lonnie Smith. C'était terrible.
During that time, I did my first recording session.
À cette époque-là, j'ai fait ma première séance d'enregistrement avec Lonnie Smith, Aphrodisia. Il y avait Ben Reilly à la batterie. Il y avait Ron Carter à la basse électrique sur certains morceaux.
Lonnie was looking for a drummer and my friend Jamie Haddad.
Il cherchait un batteur, Lonnie Smith, et mon copain Jamie Haddad, qui jouait avec Paul Simon récemment, qui était de Cleveland. Je l'ai recommandé pour Lonnie. Il est sur quelques morceaux, sur Aphrodisia aussi. C'était aussi le premier enregistrement de James Haddad. Et il y avait George Benson à la guitare.
New Jersey.
Et d'ailleurs, on résidait dans son appartement à Inglewood, dans le New Jersey, à Benson. Son disque Masquerade n'était pas encore sorti, mais il l'avait déjà enregistré. C'était vraiment les tout débuts de la carrière de George Benson. Mais comme il était sous contrat, il ne pouvait pas utiliser son nom sur le disque. Du coup, il a écrit... guitare, présence d'un ami. Mais dès que vous entendez deux notes, vous savez qui est l'ami en question. Apex dans l'album Aphrodisia du docteur Lonnie Smith. C'est une de ses compositions d'ailleurs. C'est la première séance d'enregistrement dans un studio du jeune Joe Lovano, frais émoulu de la Berklee School. Il n'a pas encore 23 ans à ce moment-là. On est en
1975.
Le disque de Lonnie Smith, Aphrodisia, est sorti au moment où j'étais en tournée avec Macduff. Et les radios américaines passaient le disque de soul jazz de Lonnie Smith, cet Aphrodisia. Et du coup, quand j'arrivais quelque part avec Macduff, les gens venaient me voir en me disant « C'est vous, le saxophoniste qui joue avec Lonnie Smith ?» Tout d'un coup, j'étais un peu reconnu comme étant quelqu'un qui tournait à cette époque-là. Bon, depuis, évidemment, on me connaît, mais à cette époque-là, c'était les tout débuts.
Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
So during that time, brother Jack McDuff.
Pendant cette période, Jack McDuff jouait à Cleveland. Ça devait être en
75.
Je suis dans un orchestre qui joue en alternance avec lui au Smiling Dog. Un lieu qui avait ouvert en 71 et qui a dû rester jusqu'en 76-77. Il y a McCoy Tyner jouait là-bas, Chick Corea avec Return to Forever. Un des premiers concerts de Weather Report s'était passé au Smiling Dog. C'était un endroit important à Cleveland, dans l'ouest de Cleveland. Il y avait toujours un groupe local qui faisait la première partie des stars qui passaient après. Et j'y jouais tout le temps. Parce qu'après la Berklee School à Boston, je suis revenu à Cleveland à cause de ce club. Thank you. C'est l'enregistrement le plus récent, ce coup-ci, de Joe Lovano, le fameux trio Tapestry, chez ECM, enregistré en mars 2018, avec son ami Carmen Castaldi à la batterie et Marilyn Crispell au piano, Joe Lovano bien sûr au ténor. Et la composition, c'est le souvenir vivace qu'il a de ce club de Cleveland, The Smiling Dog.
Because when you're on a scene like that and you're playing with people, you're always challenging.
Quand vous êtes dans un endroit comme ça, que vous jouez avec des gens, c'est à chaque fois un pari pour être à la hauteur. Il faut partager la scène, partager l'espace, partager la musique. C'est ce que j'ai appris avec mon père. Comment je peux jouer à deux ténors, comment mélanger les sons, comment suivre l'autre son de ténor et comment choisir les notes qu'on joue.
Thank you.
écoutez avec une bonne stéréo. Joshua Redman était à droite et Joe Lovano était à gauche. Et oui, un jeu à deux ténors, comme ils nous ont parlé. Joe Lovano avec Mulgrew Miller au piano, Christian McBride à la basse. C'est Lewis Nash qui était à la batterie et Don Alias aux percussions. 1993, dans le disque Tenor Legacy de Joe Lovano. Et la composition qu'il avait signée s'appelle Miss Etna, histoire de nous rappeler à nouveau ses origines siciliennes dont il nous parlait hier. Le jeu à deux ténors découvert chez Jack McDuff, mais ça ne va pas s'arrêter là.
So brother Jack McDuff comes to Cleveland.
Et donc, brother Jack McDuff était venu à Cleveland. Il avait deux ténors, guitare, basse, batterie, avec l'orgue, bien sûr. Et il voulait avoir quatre saxophonistes. Et so, il appelait son orchestre Heating System. Il avait un alto et un baryton qu'il prenait dans chacune des villes où il tournait.
Bill Cody.
Les deux ténors qui étaient là en permanence, c'était Bill Cody, qui jouait un peu dans le style de Bill Mobley. Il venait de Jersey City. Il a joué avec Frank Foster aussi. Il a disparu aujourd'hui. Mais c'était un beau saxophoniste. Et David Young était l'autre saxophoniste ténor, qui était un peu la vedette de l'orchestre. Il joue dans des enregistrements de George Russell, de David Young.
He was something else, man.
Lui, c'était quelque chose de différent. C'est un des premiers avec qui j'ai joué après mon père, dont je me suis dit, waouh, voilà un maître.
With, you know.
Et on a j'ai joué avec lui.
Band, which was maybe a year later.
Il y avait aussi Frank Tiberi dans les environs à cette époque-là. En tout cas, McDuff cherchait un saxophoniste baryton. Moi, j'avais aussi un baryton que m'avait offert mon père, que je pratiquais de temps en temps. Mais je jouais du ténor quand il m'a découvert et j'apprends qu'il a besoin d'un baryton pour le reste de la semaine. Il m'a demandé si je voulais jouer du baryton avec l'orchestre de Macduff. Et quand j'ai entendu l'orchestre, waouh, ça chauffait. Il y avait Joe Dukes à la batterie. On l'appelait Dixie Bomber. Il a enregistré plusieurs fois avec Brother Jack McDuff. Donc j'ai joué du baryton et Willie Smith jouait de l'alto. Willie Face Smith, c'est le meilleur ami de mon père, un grand saxophoniste alto dans le style de Charlie Parker. Il a été aussi très influent sur mon style. J'ai beaucoup appris de Willie Face Smith.
He turns out to be the cat that I have do my orchestrations.
C'est même celui à qui j'ai fait appel pour des orchestrations pour mon disque 52nd Street. Thank you. Jules Veneau en soliste au saxophone ténor sur If You Could See Me Now, une composition de Tad Dameron pour cet album 52nd Street Theme, qui avait remporté un Grammy Award du meilleur album de jazz en grande formation cette année-là. Il était sorti en 2000, il avait été enregistré en 1999 avec donc les arrangements du fameux Babyface Smith qui était un ami du papa de Joe Loveno.
Open Jazz, Alex Dutil, France Musique.
Et à chaque étape de ces collaborations, Joe Loveno a appris des choses. Et il n'a pas tardé, dans la foulée de ses tournées avec Jack McDuff, qui avait succédé à Dr. Lonnie Smith, il n'a pas tardé à jouer avec le big band de Mel Lewis. Qu'est-ce qu'il y a appris ?
Oh man, I learned about how to blend.
Ce que j'ai appris chez Mel Lewis, c'est comment mélanger mon son avec les autres. Des choses que j'avais déjà appris chez Woody Herman. Mais là, on jouait tous les lundis au Village Vanguard. Dans cet endroit intime, on n'était plus en tournée avec des avions ou des bus. Et du coup, on avait vraiment un son. On était à la recherche d'un son, puisqu'on jouait toutes les semaines au même endroit. En fait, ça n'a fait qu'approfondir ce que j'avais appris chez Woody. Bud Brookmeyer était arrangeur de l'orchestre. Il nous amenait des nouvelles compositions et des nouveaux arrangements. Et des choses qu'il racontait m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'apprenne la partie des autres musiciens à côté de moi et pas simplement la mienne pour bien jouer.
Awareness, you know, to know who you're playing with within the band. Because Bob
would
split the sections.
Avec qui on joue, c'est important pour se sentir bien dans l'orchestre. Tom Harrell faisait partie de cet orchestre aussi. Et Bud Brookmeyer, l'arrangeur, il écrivait pour des musiciens en particulier. Et le fait de jouer avec Mel, c'est un des plus grands batteurs de l'histoire. Il avait un sentiment quand il jouait. Vous aviez l'impression quand il vous accompagnait que c'était votre orchestre. Et il vous portait et vous dirigeait en même temps là où il voulait. Thank you. Little Pixie, une composition de Ted Jones. C'est dans l'album The Definitive Ted Jones, volume 1 en 1988, en février 88. Et dans la section de saxophone de l'orchestre de Ted Jones, il y avait à l'alto Dick Oates et Ted Nash. Ted Nash qui est aujourd'hui chez Wynton Marsalis au Lincoln Center. Gary Smullyan était le baryton, Mel Lewis bien sûr le batteur, et c'est Joe Lovano qui prenait ce premier solo. Il y a aussi Ralph Lalama au pupitre des ténors de l'orchestre de Mel Lewis. Mel Lewis, avec lequel Joe Lovano allait entretenir une relation professionnelle intense. On est devenu proche avec Mel Lewis. On a joué en dehors de son orchestre. Et j'ai commencé au début des années 80 à me retrouver en situation de leader. Et j'ai eu une opportunité pour aller à Boston en tant que leader. Souvent, quand on m'embauchait comme leader, je trouvais les musiciens qui m'accompagnaient sur place. Mais il y a eu un moment dans les années 80 où j'ai eu les moyens d'emmener mon propre quartet. Il y avait Kenny Werner au piano, Dennis Irwin à la basse et Mel Lewis à la batterie. Mel, il venait pour $100. Il se moquait de l'argent que ça lui rapportait. Il avait juste envie de nous aider, nous qui étions des jeunes musiciens qu'il adorait. Et il avait envie de jouer. Et pour nous, aller jouer à Boston pendant une semaine avec lui, c'était quand même super. Nous, on partageait un appartement, mais Mel Lewis, je le mettais à l'hôtel quand même. En tout cas, c'était pas une question d'argent.
Thank you.
Joe Loveno dans Chessmates. C'est une composition de Kenny Werner pour la première séance d'enregistrement sous son nom de Joe Loveno. On avait entamé d'ailleurs notre série hier avec cet album Tones, Shapes and Colors qui date de novembre 1985 et qui avait été publié chez Solnote. C'était la fin du deuxième épisode de notre saga Viva Loveno avec Alexandre Billard, Ludovic Auger, Olivier Dupré, Gérard Chen, Solal Mazran et Fabien Flora. Demain, le troisième épisode, les années Loft à New York.
À réécouter sur francemusique.fr.